Cette semaine à Québécois, le retour sur les élections. Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 37 de Québécois. Bonjour Charles.
Salut Gabriel.
Salut. Puis c'est finalement arrivé, c'est le grand jour, on passe au vote.
Oui, effectivement, j'ai hâte de voir ça va être quoi le taux de participation. Parce que la campagne, à mon avis, était somme toute assez plate. Je sais pas, il me semble qu'il n'y a pas eu tant de hype que ça autour des, je sais pas, des débats qu'il y a eu. C'était plus une succession d'annonces un peu désalignées d'un projet qui pourrait faire vibrer les masses. Là. C'était vraiment comme une liste d'épicerie où chacun énumérait qu'est-ce que lui voulait mettre où. Je sais pas dans quelle mesure ce que ça va faire sortir le vote, ça, mais j'espère que nos auditeurs vont prendre le temps d'aller voter. Que vous avez bien une chose à faire, si c'est bien ça, demain.
Oui, je pense qu'au minimum, c'est ce qu'on peut demander de tout le monde. Puis moi, en tout cas, demain lundi, aujourd'hui, là, pour ceux qui vont écouter le podcast, parce qu'on enregistre toujours un peu en avance. Mais aujourd'hui, les gens, j'espère que vous avez été votés, que vous allez vous asseoir avec votre sac de chips puis votre Pepsi pour regarder, ou votre bière pour regarder les résultats comme nous ce soir. La semaine prochaine, on va sûrement avoir la chance de vous parler des résultats. J'ai l'impression que ça va être intéressant. Peut-être que si la campagne n'a pas été la plus palpitante, j'ai l'impression que les résultats ce soir, ça pourrait être assez serré, fait qu'on risque de d'avoir des surprises. On peut même pas vraiment prédire comment ça va se passer, là. Même tous les sondages semblent être d'accord pour nous dire que la CAQ et les libéraux sont nés à nez. Fait donc ça va vraiment se décider demain dans le bureau de scrutin. Fait que faites avec ça ce que vous en voulez. Puis on essaiera pas trop de dire de niaiseries pour prédire parce que il y en a beaucoup qui vont probablement écouter le podcast après la journée des élections. Fait que on va pas essayer de pas avoir l'air trop niaiseux. Fait que commençons par peut-être faire un petit retour sur la campagne. Charles, c'est quoi qui t'a frappé cette année sur les 7 dernières semaines?
Ben en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à quel point le débat a été vide. c'était vraiment une succession de formules creuses. J'ai jamais senti que les politiciens allaient en détail dans leur façon de voir le monde, dans leurs valeurs. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant à suivre à bien des égards. Mais si on met ça de côté et qu'on revient un peu à la statistique électorale, parce que c'est ça au fond l'élection, hein, dans un système uninominal à un tour comme qu'on a présentement, il y a 125 mini-élections, puis le gagnant de chacune de ces mini-élections-là renvoie un député. Mm-hmm. Et là, on regarde les statistiques qui sortent, là, les différents sondages. Il y a l'excellent site QC125 qui a fait un job admirable durant la campagne pour nous tenir à l'affût. Ouais. Puis, ce serait possiblement une des premières fois depuis très longtemps là, qu'un gouvernement pourrait être formé sans être élu sur l'île de Montréal.
Ah oui?
Ouais. La dernière fois,
c'est comme ça, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'on ne verra pas de CAQ élu à Montréal, c'est ça?
C'est ça. Il y aurait des chances, là, si on regarde les derniers sondages là, qui viennent tout fraîchement de sortir, la CAQ n'est pas vraiment en bonne position de gagner aucune circonscription. Du moins, peut-être pointe au 30, mais c'est quand même assez péquiste dans ce coin-là avec Jean-Martin Hossan. Puis si ma mémoire est bonne, là, la dernière fois que c'est arrivé là, que le parti au pouvoir n'avait pas de député sur l'île de Montréal, c'était avec Daniel Johnson en 1966. Ce serait assez inusité que la CAQ forme un gouvernement, même minoritaire, sans aucun député, disons, dans la sur l'île de Montréal.
Mais ça, c'est intéressant, ça, parce que ça exprime peut-être une dichotomie dans l'opinion politique du Québec. On dirait que c'est les fossés se creusent entre les régions puis la grande métropole.
Ben sans surprise, tous les horaires des autobus des partis sont disponibles. Et je me trompe pas, la plupart des circonscriptions qui ont jamais été visitées sont sur l'île de Montréal en ce moment. Durant toute la campagne, l'île de Montréal a été boudée. quoi qu'il y a, on sentait qu'il y a beaucoup de circonscriptions à Montréal, c'est très densément peuplé, mais le point, c'est que Montréal n'est pas perçu comme étant un secteur pivot sur lequel on peut faire des gains. C'est assez statique. Ça bouge pas. Mettons, l'ouest de l'île, c'est pas mal rouge. Le nord de l'île, c'est pas mal
Mais
rouge.
c'est, mais
Là, tu as
c'est...
une grosse bande le long de la ligne orange qui vire orange, justement. Mais ça, c'est pas mal les PQ puis le Québec solidaire qui se battent là-dessus. La CAQ semble pas être capable de capitaliser. Alors qu'en région, la CAQ performe très bien.
Je suis sûr qu'il y a une explication derrière ça, là.
Oui,
C'est
ben ça,
pas... C'est
c'est.
pas
On avait déjà discuté en fait sur le podcast, c'est-à-dire que les gens votent leur personnalité. Il y a des corrélations extrêmement fortes entre certains traits de personnalité, comme l'ouverture ou par exemple le côté artistique, et où est-ce que les gens vont aller habiter. Fait que les gens plus à gauche ont tendance à aller vivre en ville, dans des régions densément peuplées. Les gens plus à droite, plus conservateurs, ont tendance à vivre en région. Où c'est moins densément peuplé. On a exactement le même clivage aux États-Unis. C'est la même histoire qui se répète tout le temps. Peut-être que je pourrais mettre. Il y avait une vidéo super intéressante là-dessus que j'ai écoutée sur YouTube il y a 2 ans. Ça explique à peu près ça, là.
Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que les gens qui sont plus à droite vivent en campagne ou est-ce que c'est la campagne qui rend les gens plus à droite ou la ville qui rend les gens plus à gauche? Est-ce que le fait d'être entouré par une autre réalité va modifier en fait ton opinion? Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça aussi, non?
Ah,
Je
ben,
suis pas
ça
sûr
se peut
de.
qu'il y ait une interdépendance, mais une chose est certaine, les gens qui sont très élevés dans le modèle des Big Five, là, dans un des traits de personnalité qui est l'ouverture, les gens qui sont très élevés là-dedans aiment les régions densément peuplées, aiment interagir avec des gens. Les gens qui sont bas là-dedans, généralement, sont plus solitaires et préfèrent un environnement moins densément peuplé. Donc, c'est un trait de personnalité, puis ça, ben, il y a des corrélations très fortes avec. Les élections, il y a un prof à l'université de Kingston, si ma mémoire est bonne, en sciences politiques, là, qui fait des analyses statistiques et qui arrive après à des conclusions similaires, à savoir que les gens votent leur personnalité. Puis que c'est à tout moins. C'est assez facile à prédire, au fond, comment les gens vont voter quand on leur fait passer des tests de personnalité.
Ça explique pourquoi les élections se ressemblent plus ou moins d'une élection à l'autre. Parce qu'en fait,
Des fois,
les...
il y a quand même des surprises. Hein. Regarde, mettons, à l'élection fédérale, celle de juste avant le décès de Jack Layton avec la vague orange, ben là, on a une deuxième vague orange avec Québec solidaire, avec une croissance assez importante dans les intentions de vote. Ça ne se traduira pas nécessairement par beaucoup de sièges, parce qu'on n'est pas dans un système proportionnel, mais en termes de pourcentage de l'électorat, il risque d'arriver avant le PLQ chez les francophones.
Mais ça, c'est un truc qui me fascine. Okay, si on regarde, je regardais sur... Ah, oh, c'est quoi le site? Un des sites, pas le QC 125, mais un des gars sur Facebook là, qui a son propre site. Putain, comment il s'appelle? Je pense que je t'en avais envoyé une couple de ces... Il fait les prédictions à tous les jours, en fait. Il compile là, toutes les statistiques, puis... Patente tout ça ensemble pour ensuite prédire comment ça va se passer lundi. Puis ce qui me frappe, c'est que dans les statistiques les plus récentes que j'ai vues, là, donc hier soir, le parti, la CAQ est à genre 32%, puis, ça, puis les libéraux sont à 31%, mais il y a une différence de sièges prévue de 24 sièges de plus pour la CAQ. C'est quand même beaucoup pour un point de pourcentage. Fait qu'on peut commencer à se poser des questions sur vraiment si notre mode de scrutin a besoin d'être révisé. Parce que si on regarde ensuite avec le PQ et le Québec solidaire, qui eux aussi sont à 1 % point de pourcentage de différence, mais le PQ remporterait quand même presque 10 sièges ou 12 sièges de plus que Québec solidaire. Fait que là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on représente vraiment le scrutin de la population? Parce que là, on a les quatre partis, en fait, se retrouvent à soit être avantagés ou désavantagés de façon significative, juste parce que la façon qu'on découpe notre carte électorale. Puis en plus, on commence à voir que ce n'est pas un phénomène qui s'est réservé juste au Québec. On a eu exactement la même chose à l'élection de Trump, quand on regardait le découpage de la carte électorale. Le vote populaire avait été chez Hillary Clinton, mais Trump, au niveau des délégués, pardon, il y avait une écrasante majorité. Fait que ça, on ne semble pas vraiment concorder ce qu'on pense aujourd'hui à une démocratie.
Le cas des États-Unis est un peu différent. Je pense que ça vaudrait la peine de venir dans un podcast séparé parce qu'en ce moment au Québec, il y a trois des quatre partis principaux là, qui veulent avoir une réforme du mode de scrutin, c'est-à-dire la CAQ, le PQ et Québec solidaire. Ça se peut que ça bouge avec le prochain gouvernement. Du moins, je sais qu'on a plusieurs auditeurs là, qui l'espèrent. Ça, ça nous a un petit peu jasé. Mais je pense qu'on va revenir sur le mode de scrutin, parce que c'est un débat fort intéressant. On n'a pas encore fait d'épisode là-dessus. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
Oui, puis ça va être intéressant de voir si le parti qui est élu va en fait tenir sa promesse. Les seuls, je pense, qui sont pas vraiment intéressés, c'est les libéraux. Mais on l'a vu au niveau national, au niveau fédéral, Justin Trudeau, il s'est fait élire principalement sur le mandat de réviser le mode de scrutin, puis il n'a pas réussi. Il y a eu toutes sortes de problèmes en Chambre puis avec le Sénat qui ont fait que tous ces efforts de réviser le mode de scrutin ont été rebutés. Puis j'ai l'impression que on simplifie peut-être un peu trop là, avec la facilité que ça pourrait être de refaire le mode de scrutin. Fait que je sais que les partis politiques en parlent, mais moi je suis pas encore convaincu là, qu'on va voir que la prochaine élection qu'on va voter avec un vote proportionnel. Parce que ça avantage pas vraiment personne au niveau des partis politiques.
Oui, ben, je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui avancent des idées hybrides. On verra, parce que c'est vrai que c'est un dossier complexe. Je ne sais pas en quelle mesure est-ce que les partis sont véritablement sincères, puis ils disent pas juste ça par opportunisme, une fois rendus au pouvoir, avantagés par le système, là, finalement, changent leur fusil d'épaule. Finalement, c'est trop compliqué.
Parce que imaginez aujourd'hui, là, si on avait un vote proportionnel sur l'élection de demain, les deux partis qui seraient récompensés pour le vote proportionnel, ce serait les libéraux puis le Québec solidaire, parce qu'ils se retrouveraient avec plus de membres en chambre. Les deux partis qui seraient pénalisés, ben, c'est la CAQ et le PQ. Donc, en quoi la CAQ a-t-elle... C'est quoi son avantage de mettre ce projet de loi en chambre? Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, je ne suis pas convaincu là, qu'on va changer notre façon de se faire élire. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose de dramatique au niveau politique avant qu'on voit un changement de notre mode de scrutin.
Moi, je suis assez de ton avis là-dessus. Je pense pas que ça va trop bouger au grand désespoir de beaucoup d'électeurs, parce que je sais que c'est une idée assez en vogue en ce moment, là, d'incorporer au moins une composante proportionnelle.
Oui, absolument.
Mais sinon, juste un petit résumé là, pour aider les gens, là, si ça n'avait pas encore été voté. Dans les grandes lignes, là, mettons, les engagements du Parti libéral, ils veulent continuer pas mal la job qu'ils font jusqu'à maintenant. Là, fait que si vous êtes satisfait du bilan du Parti libéral, ben ils veulent continuer dans la même lignée. La CAQ font une promesse quand même assez intéressante qui ressemble un peu à celle des libéraux, soit de réduire à 90 minutes dans les 4 prochaines années le temps d'attente moyen à l'hôpital. Une allocation de 1 200 $ pour un deuxième et un troisième enfant, hein, en question d'encourager la natalité qui va pour compenser l'immigration en moins là, que la CAQ souhaite avoir. Sinon, il y avait la maudite maternelle à 4 ans là, qui revenait tout le temps. Je sais pas.
Mais c'est quoi
ce que c'est un si gros enjeu.
Je comprends pas.
La maternelle à 4 ans.
Ça arrive.
La CAQ veut la maternelle à 4 ans.
Ça arrive de nulle part, cette maternelle à 4 ans. Là. Est-ce que c'est réellement un enjeu que les Québécois ont de besoin? Il me semble qu'il y a des besoins plus pressants au niveau d'éducation que ça. Mais j'ai jamais compris là, l'engouement avec cette affaire-là. N'importe quoi.
Le PQ, eux autres, veulent créer 26 000 places en CPE de plus, puis investir dans les écoles. C'est toujours plus de cash. En tout, je pense que la dernière fois que j'ai checké, les partis avaient promis collectivement comme 60 milliards. c'est beaucoup incroyable. D'argent en promesse.
Incroyable.
Du côté de Québec solidaire, ben, leurs promesses ont quand même été très couvertes par les médias.
Ben oui, c'est tellement farfelu. Farfelu.
Leur assurance dentaire. Il va mettre un paquet d'affaires. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est dans la dernière semaine, on dirait que les médias se sont réveillés et ont commencé à être critiques envers Québec solidaire.
Ben oui.
Ils ont changé de ton.
Parce que là, Au début de la campagne, Québec solidaire, c'était un peu comme les unicornes, les licornes, tu sais, on y croyait pas. Puis là, en fin de campagne, on réalise que finalement, ils pourraient faire toutes sortes de percées là, à travers le Québec. Donc, ils risquent de nous surprendre lundi soir. Fait que là, quand ça devient sérieux, mais là, on va peut-être pas le choix de les prendre au sérieux. Puis tant mieux, parce que Québec solidaire, ils ont bénéficié depuis qu'ils existent, là, donc ça fait tout. Plus de 10 ans maintenant, là, facilement. Fait, ils bénéficient en fait de carte blanche, d'être capable de se mettre à la télé puis dire n'importe quoi, puis que tout le monde fait ah, c'est drôle, puis on les ignore. Mais là maintenant, il faudrait peut-être arrêter là, de les laisser dire n'importe quoi, puis qu'on les scrute de la même façon qu'on scrute les autres.
Je dirais que ça va encore plus loin que ça, puis c'est plus pernicieux que tu le laisses entendre, Gab. C'est, à mon avis, ils ont été érigés comme une sorte de référence de moralité. Tu sais, quand on parlait sur le podcast, là, par le passé, on l'a fait à plusieurs reprises, les chevaliers de la vertu, ben c'est comme si Québec solidaire, c'était eux la référence en politique en matière de vertu. Puis Françoise David était vraiment une sainte. Puis c'était comme l'exemple à suivre dont tout le monde devrait s'inspirer en politique publique. Puis Manon a pas mal réussi à récupérer cette aura-là, notamment en se comportant de façon civilisée durant le débat. Ça faut que j'y donne. Mais ça fait en sorte que Québec solidaire avait une espèce d'aura de respectabilité qui venait simplement du fait que les gens présumaient de leurs bonnes intentions puis disaient « Ah, mais Québec solidaire, c'est des bonnes personnes, c'est notre idéal en matière de vertu. » Ça faisait en sorte qu'ils n'avaient pas envie de les critiquer, ils n'avaient pas envie de leur rappeler que leur plan financier fait absolument aucun sens. Puis, tu sais, on a eu plusieurs qui nous ont écrit pour nous dire qu'on n'avait pas été très sévère avec la dame de Québec solidaire là, qu'on a reçue en entrevue il y a 2, 3 semaines. Mais vous savez, nous, notre but, c'était de laisser la parole à des gens, c'était pas de leur rentrer dedans, mais
Puis
Québec solidaire, peut-être que je pourrais.
on pouvait pas être qui est sévère avec Madame Mingo parce qu'on n'a pas été sévère avec Mounir, puis on n'a pas été sévère avec JF, puis on n'a pas été, on voulait pas non plus que ça devienne une espèce de tribune à chiolage, ben à chiolage, une tribune un piège pour les invités. On voulait vraiment exposer ou laisser la chance à ces gens-là de parler de leur parti, puis que les auditeurs puissent tirer leur propre conclusion. Puis là, nous, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans notre bilan, ben, on est en position d'argumenter contre ou pour.
Mais je pense qu'on va falloir revenir plus en détail sur Québec solidaire une fois qu'on aura les derniers chiffres, parce qu'il y a quand même une espèce de tendance sous-jacente, particulièrement chez les plus jeunes dans mon groupe d'âge, les 18-35 ans, qui moi me préoccupe. Et puis c'est pas juste Québec solidaire, c'est d'autres études, d'autres statistiques qui sortent, comme par exemple dans mon groupe d'âge, c'est le groupe d'âge qui est le plus susceptible de dire qu'il faut censurer la liberté d'expression pour empêcher les gens d'être offensés. C'est le groupe d'âge qui est le plus susceptible de vouloir vivre dans un régime communiste versus une
Ben
économie
là,
de libre-marché comme qu'on connaît.
un
C'est.
régime communiste. Où est-ce que tu sors ça?
M'a envoyé l'étude, c'est
S'il
paru, je
te
pense, il y a deux,
plaît.
trois semaines. Moi, ça me jette à terre parce que je comprends pas, mais c'est mon groupe d'âge. Les 18-35, là, c'est mon groupe d'âge et c'est le groupe sur lequel Québec solidaire mise le plus. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois, là, de tous les deux, écrit par
Ah, il
Facebook pour
t'a-tu
qu'on aille
écrit toi
voter pour lui.
aussi? Ah, il t'a écrit toi aussi? Ah,
Ouais, moi
c'est
aussi, il m'a écrit.
merveilleux.
Ils écrivent aux jeunes, ils veulent faire sortir le vote des jeunes
Ouais,
parce
mais
qu'ils présument que les jeunes sont plus réceptifs à leurs idées et je pense qu'ils font un bon calcul. Je pense qu'il y a un pourcentage significatif de jeunes qui résonnent avec le discours de Québec solidaire et ça, c'est une tendance que je veux qu'on sur laquelle je veux qu'on s'attarde au courant des prochaines semaines parce qu'il faut décortiquer ça. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe. Parce que Québec solidaire avance des idées qui sont vraiment. Je pèse mes mots, là, mais ce sont des idées dangereuses. C'est pas pour faire de la peur, là, parce que souvent, c'est ce que Manon Massé disait. C'est, mettons, quand Philippe Couillard faisait une critique ou quand Gilles Duceppe faisait une critique, elle disait, il jouait sur la peur. Puis je suis comme, c'est une défense raisonnable, parce que c'est vrai que ces politiciens-là, quand ils le font, c'est pas dans une démarche de rigueur intellectuelle pour analyser les fondements philosophiques d'une formation. Ils font ça effectivement pour faire peur à l'électorat. Moi, l'approche que je pense qu'on va falloir qu'on aborde, c'est justement celle des fondements philosophique de Québec solidaire. Pourquoi est-ce que ce qu'ils proposent, c'est une mauvaise idée? Puis de le faire, évidemment, avec respect. Parce que le but, c'est pas d'attaquer les gens dans leur identité. S'ils résonnent avec ces idées-là, c'est qu'ils y croient. Mais je pense qu'au Québec, on a un problème à décortiquer ce genre de questions-là sans tomber dans les attaques personnelles. Puis nous, je pense qu'on est capable de relever le pari, là, de discuter de l'importance d'avoir un marché libre sans tomber dans les attaques personnelles.
Absolument. Traite aux libéraux. Quels libéraux, eux? Comment tu vois leur campagne électorale?
Ça, c'est drôle, hein? J'attendais que tu me la poses, celle-là. Je savais que tu allais m'arriver avec les libéraux. Mais... Pour un gouvernement qui est fier de son bilan, on voit pas aucun des ministres. On a juste des gens mous, là. On a, mettons, tu sais, comme les espèces de piliers du Parti libéral au niveau exécutif, là, il y avait, mettons, Pierre Moreau, Dominique Anglade, Barrette, Roux. Tout ce monde-là sont absents des débats. Ouais. On les voit pas. Les poids lourds libéraux, là, ils sont cachés. Fait que moi, ce que ça me laisse entendre, ça, en réalité, c'est que le gouvernement qui se dit fier de ses réalisations, mais qui cache ses ministres, moi, ça sonne comme si, à l'intérieur, il y avait une espèce de rébellion, c'est chacun pour soi, puis qu'il y avait déjà comme une semi-course à la chefferie pour remplacer Philippe Couillard qui s'était amorcé. Ça sonne quasiment comme une fin de régime, parce que d'habitude, tes poids lourds, tes mets devant, tes envois aux barricades, puis c'est eux qui prennent les coups plutôt que uniquement Philippe Couillard. On entend juste Philippe Couillard.
Moi, je suis pas sûr que je le vois de cette façon-là. Moi, j'ai l'impression, si on regarde les 4 dernières années, là, les soi-disant poids lourds des libéraux, c'est pas des poids lourds, si grands poids lourds que ça. Gaétan Barrette, à chaque fois qu'il se rouvre la bouche, il allait en cave, en Simonac. Les autres ministres, c'est la même affaire. Passe pas trop à la télé, là. C'est peut-être plus stratégique qu'autre chose. Moi, je suis pas sûr, moi, que je voudrais se faire aller la trappe, parce que dans les dernières années, il paraissait mal en crise à la télé.
Ça se peut que ce soit ça aussi, hein? C'est juste de la spéculation, mais en 2014, tous ces députés-là étaient à l'avant-plan de la campagne. Ils faisaient des conférences de presse par eux-mêmes dans leur circonscription, se retrouvaient dans les tribunes, à la radio et à la télévision. Ils étaient vraiment présents, alors que là, ils sont absents. Et c'est Philippe Couillard qui contrôle quasiment la totalité du message. Donc, je vois une différence entre 2014 et aujourd'hui, puis je me cherche une explication. C'est peut-être effectivement qu'ils ont pris une décision d'un commun accord qui était toute cave, puis qu'ils allaient laisser parler Philippe Couillard. Ou peut-être qu'il y a des dissensions à l'interne sur la stratégie, puis qu'au final, ils ne s'entendent pas tellement bien.
Il y a peut-être un petit peu des deux. Hein. Tu sais, la dissension, ça peut être correct tant qu'on est au pouvoir, là, mais peut-être qu'une fois que... Si, mettons, que la performance des libéraux demain n'est pas très bonne, ce serait l'opportunité pour que les requins qui tournent autour de Philippe, qui commencent à prendre des petites bouchées.
Mais ce qui, moi, me laisse penser qu'il y aurait des problèmes à l'interne, c'est au niveau des candidatures du PLQ. Le PLQ, même quand il était au plus bas des sondages, là, dans le temps de Jean Charest, là, qui avait même une pétition pour le destituer, le PLQ arrivait toujours à attirer des candidats marquants de la communauté des affaires ou de la finance. En 2018, il n'y a pas eu de nouveaux candidats, du moins avec une force de frappe dans le secteur des affaires. Ils n'ont pas, à mon avis, eu de magnétisme pour attirer des candidats de haute voltige, alors qu'ils n'ont jamais eu de problème par rapport à
ça. Ils ont essayé quand même. Là. Celle qui avait eu là, toute l'histoire avec les messages textes de la CAQ, là, qui serait en théorie la ministre de la Santé. Son nom m'échappe. Là. C'est quoi? En tout cas, elle, je pense que c'est ce qui s'attendait d'elle, là, que ça soit un coup bien monté de leur part, mais finalement, ça a échoué parce que la CAQ a réussi à voler le punch en publiant les messages textes qu'ils avaient eus avec elle. Fait que je pense qu'ils ont juste pas eu beaucoup de, en parenthèse, entre guillemets, de la chance ou de succès durant la campagne, parce qu'on dirait que tous leurs coups, ils ont juste pas marché. Ils ont pas fait une super belle campagne. Tu sais, comme l'histoire des semaines de nourriture à 75$, puis tout ça. Toutes sortes de... On dirait que tout ce qu'ils faisaient, ils se défendaient, puis ils défendaient non seulement leur performance des dernières 4 ans, mais ils étaient toujours en mode on répare les pots cassés que Philippe a laissé derrière lui cette semaine. Enfin, je pense que c'est quand même assez remarquable qu'ils sont toujours à une trentaine de pourcentages dans les intentions de vote parce que ils n'ont pas fait grand-chose durant la campagne. Honnêtement, moi, j'ai pas été particulièrement impressionné par la performance des libéraux cette année durant la campagne.
Oui, ben ça, c'est comme un petit peu ce que nous racontait notre invité pour le PLQ. Hein. C'est que pour beaucoup de gens, il y a un seul parti qui fit un petit peu plus avec leurs valeurs. Ouais. Puis ça fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment le choix de voter PLQ. Ouais. Moi, dans ma circonscription, Québec solidaire est deuxième. Puis c'est le PLQ qui est en premier.
Ouais.
J'aimerais ça ne pas avoir à voter pour PLQ, mais je pense que j'aurais pas le choix. Puis je sais que j'ai prêché contre là, dans le dernier podcast sur l'importance de voter selon ses convictions, mais ouais. Tabarouette, Québec solidaire deuxième, ça me fait plus peur. Parce que un député de plus, ça enverrait quand même un gros signal. Je suis en grosse réflexion en ce moment si je vote stratégique pour bloquer Québec solidaire.
Ça donne que dans ma circonscription, ça va être probablement un libéral ou une libérale dans ce cas-là qui va rentrer. Puis je regarde la liste de candidats, puis il n'y en a aucun qui me donne envie de voter. Il n'y en a pas un. D'habitude, tu sais, je peux raisonner mon vote pour au moins telle personne, pour tel candidat, parce que je me dis au moins elle ou lui, il va, tu sais, travailler fort, ou j'aime sa personnalité, ou je sais qu'elle a des bonnes valeurs, malgré son parti. Tu sais, parce qu'il y a deux niveaux. Tu peux voter pour le parti, tu peux voter pour le premier ministre, tu peux voter pour le candidat lui-même. Puis en ce moment, là... Je sais pas, tu sais, j'en ai pas vu un des candidats dans ma circonscription. Il y en a seulement un qui m'a laissé un pamphlet dans ma boîte aux lettres. C'est la candidate libérale, en fait. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'ils savent que dans notre circonscription, c'est majoritairement anglophone, puis ça va, c'est libéral depuis toujours, fait que les autres, ils se forcent pas trop, je sais pas, mais en même temps... Me semble, j'aimerais ça que mon vote soit courtisé. Puis j'ai vraiment l'impression que je suis pas le seul dans la circonscription qui est comme ça, que ça prendrait juste le bon candidat. Puis que, tu sais, si tu fais une bonne campagne, puis tu parles aux gens, c'est pas vrai là, que ces gens-là, ils sont élus par défaut. Je sais qu'on a comme cette façon-là de penser au Québec. On dit qu'il y a une gang de circonscriptions, c'est libéral, ça reste libéral, mais c'est pas vrai. Là. Toute circonscription peut être gagnée par un autre candidat. Il suffit vraiment de faire du bon travail. Parce que, honnêtement, je suis pas sûr que les gens qui votent libéraux en ce moment... Ils vont y aller avec le nez pincé. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'ai.
Je pense qu'un autre des problèmes de cette situation-là, c'est que les élections deviennent quasiment... les élections revêtent une importance quasiment trop élevée parce que le gouvernement est tellement impliqué dans tellement d'aspects différents de nos vies que chaque élection devient quasiment comme un incontournable. Fait que c'est... Ça devient crucial quasiment qu'on ait un résultat plutôt qu'un autre, qu'un candidat passe plutôt qu'un autre, parce qu'on sait que les conséquences vont être graves sur nos vies. Moi, je pense que c'est un problème, puis c'est un peu un symptôme de l'interventionnisme d'État. Si le gouvernement était moins impliqué dans notre quotidien, les élections ne seraient pas aussi crève-cœur, puis on pourrait voter, je pense, de façon plus libre, parce qu'on saurait que les conséquences seraient plus limitées. Mais quand on a un gouvernement qui gère une quantité appréciable de notre argent, puis qu'il propose à peu près tout d'augmenter cette propension-là à gérer notre argent, bien là, on se dit, tabarouette, là, c'est important que t'sais, de minimiser au moins les dégâts, alors que si c'était plus libre, hein, si l'État était moins présent, ce serait, je pense, ce serait plus facile d'être relax. Le soir de l'élection. Ouais. Ce serait moins grave.
Puis le problème avec ça, c'est que je pense qu'au Québec, la grande majorité des gens, ils veulent que le gouvernement soit impliqué. Je pense que si on proposait la réduction de l'implication du gouvernement, là, les gens, ils capotent. T'sais, on l'a vu là, avec la réduction de la croissance des dépenses du dernier gouvernement libéraux durant les premiers 2 années de leur mandat. Les gens ont viré fou. Au Québec, ça parlait d'austérité partout, puis il n'y avait pas d'austérité. Il n'y en avait pas. Ça n'existe. C'était pas de l'austérité. C'était une réduction de la croissance des dépenses. Fait que là, imagine le gouvernement qui déciderait. Hey, on est trop impliqué, on a les doigts dans toutes les tartes, il serait temps qu'on arrête, ça passera pas, là. Je pense qu'au Québec, on aime ça que le gouvernement soit là.
Mais ultimement, ça, c'est un petit peu le, je dirais, le modèle québécois, ou du moins le modèle qu'on utilise ici, là, qui n'est pas unique au Québec, mais qui est quand même assez présent, c'est que le gouvernement, tout parti confondu, on a vu durant l'élection, les quatre gros partis, là, c'est tout à peu près la même stratégie. Ils veulent collecter l'argent discrètement et la redistribuer de façon flamboyante. Hein, c'est
Ouais,
ça qu'ils veulent
c'est à
faire.
peu près ça, ouais.
Et même du côté fédéral, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu ça, c'est une petite parenthèse, là, mais Andrew Scheer, qui voulait faire un ministère de la subvention, puis il y aurait des représentants dans chaque province pour distribuer les subventions d'une façon très visible hein,
Ça
pour.
se dit conservateur. Je comprends pas.
Moi non plus, hein, puis c'est le Parti conservateur est en difficulté. On y reviendra cet automne, ça va être un bon podcast, ça.
Bon, peut-être qu'il y a un dernier mot sur nos partis politiques.
Ben, je pense que présentement, il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits à l'idée qu'il y a un gouvernement minoritaire parce qu'ils ne semblent
Ouais.
pas avoir de leader clair qui s'est établi durant la campagne, qui pourrait dire hey, on est prêt à lui confier les rênes de l'État sans aucune opposition forte.
Ouais, tout à
Parce
fait.
qu'au Québec, avec une monarchie constitutionnelle comme on a ici, ben, le chef d'État et le chef de l'exécutif, et le chef de l'exécutif, c'est un pouvoir extrêmement fort quand c'est majoritaire. Alors, au moins, quand c'est minoritaire, c'est un peu tempéré. Je pense que beaucoup de gens aiment l'idée que les partis n'aient pas le choix de s'arriver à s'entendre pour avancer. On verra comment ça marche. Le dernier gouvernement minoritaire a duré juste 18 mois. Ça n'avait pas été super productif durant cette période-là. On verra qu'est-ce que ça va donner lundi.
Mesdames et messieurs, ou mesdames et messieurs même, merci encore une fois d'être avec nous cette semaine. On vous souhaite une bonne élection. On espère que votre candidat se fasse élire. On vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, mais donnez-nous des étoiles sur iTunes, sur Facebook, sur Stitcher, sur Google Play, partout, partout, partout. On aime ça, les étoiles. Sinon, vous pouvez nous suivre sur notre site web, québecquoi.ca. On a aussi notre ligne téléphonique, si jamais vous voulez nous laisser des messages, 1-888-458-4443, 1-888-458-4443. Et il y a la page Facebook, Québécois Balado. On est toujours content d'avoir de nouvelles, de discuter avec vous. Fait que gênez-vous pas pour nous laisser vos commentaires. Fait que sur ça, mesdames et messieurs, bonne soirée électorale et à la semaine prochaine. Au revoir, Charles.
À la prochaine, puis allez voter, guys!